Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Comme Elle. Je suis Émilie, je suis votre hôte et la fondatrice de l'agence événementielle La Parenthèse Magique. Au fil des épisodes, je vous emmène à la rencontre de femmes au profil très différent mais qui ont tout un point commun, c'est d'être inspirantes de par leur métier, leur passion, leur vision de la vie, leurs objectifs, leurs ambitions. Des femmes connues ou moins connues, mais auxquelles on pourra toutes s'identifier et se dire bon, « si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?» Ces conversations avec mes invités sont là comme de véritables boosts d'énergie positive, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, vous dire qu'en y croyant très fort et en s'en donnant les moyens, eh bien finalement tout est possible. Et puis, que surtout, surtout, comme elles, vous osiez. Alors, sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Émilie Tardif. Vous ne la connaissez peut-être pas, quoique si vous êtes tourangeau et tourangelle, si, forcément, puisque c'est une figure locale ici en Touraine, parce qu'elle a notamment animé pendant près de 9 ans une émission quotidienne en direct sur la chaîne locale TV Tour, dont elle est, tenez-vous bien, aujourd'hui directrice déléguée. Et en plus de ça, elle a d'autres fonctions, puisqu'elle est responsable de la production audiovisuelle pour le groupe Nouvelle République. Avec Émilie, on va aborder pendant une petite heure son parcours, évidemment, qui est hyper intéressant. Finalement, ça va vous montrer qu'on peut tout à fait atteindre ses objectifs et le métier dont on a envie sans forcément passer par le chemin traditionnel à emprunter. Et puis, on va aussi évoquer la place des femmes dans les médias. Émilie est bien placée pour nous en parler. Alors, je n'en dis pas plus. Je vous laisse avec l'invité du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie.
Bonjour Émilie.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir pour un épisode de ce podcast. Et j'aimerais, comme à l'accoutumée, que tu puisses te présenter brièvement pour commencer. Nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et si tu veux bien, quel âge tu as.
Qui je suis, j'ai envie de paraphraser la mère de c'est la mère d'Emery Croyac. Dans la vie, madame, je suis qui je veux et je fais ce qui me plaît. Mais moi, si tu veux parler de fonction, qui je suis aujourd'hui, je suis la responsable de production du groupe Nouvelle République et la directrice déléguée de la chaîne locale TV Tour Val-de-Loire. Ça, c'est ma fonction, on va dire. Et sinon, qui je suis une fille de 43, bientôt 44, c'est horrible. Non, 43 pour l'instant encore, de 43 ans, qui est très heureuse en mariage avec un formidable breton, qui a deux enfants, une de 19, une de 4 ans et demi, et l'une des deux gouvernera le monde.
J'adore cette présentation. Donc, tu nous parles des TV Tours. Avant de revenir un peu plus en détail sur TV Tours et les fonctions que tu occupes actuellement, j'aimerais qu'on monte un peu dans le temps. Est-ce que la petite Émilie Tardif savait ce qu'elle voulait faire plus tard?
Oui, alors, mais ça dépend à quel âge. La petite Émilie Tardif, elle voulait avoir une voiture commerciale pour rentrer des chiens et des chats abandonnés dedans. Il n'y a pas trop de rentabilité à cette activité finalement, donc elle a vite réalisé que ce n'était peut-être pas une très bonne idée. Et au final, oui, si la question c'est de travailler dans les médias, je pense que je l'ai toujours un peu rêvé. La preuve, c'est que je ne sais plus, je devais avoir 15 ans, mes copines m'avaient offert un plumier parce que je voulais faire du journalisme et de la presse écrite. Et je trouvais ça formidable, même si aucun journaliste n'écrit avec un plumier, hein, je tiens à le dire. Mais derrière, voilà, j'avais envie de ça. J'ai, on va dire, dirigé mes efforts vers ça. J'avais présenté l'UET de Tours. Vous n'avez pas voulu de moi.
Je ne vous un message en veux à faire pas. Passer aujourd'hui.
Mais je ne vous en veux pas. Je suis finalement parvenue à mes fins. J'ai pris plein de chemins détournés. Je suis passée par la médiation culturelle. Je suis passée par la communication. Je suis passée beaucoup par l'événementiel. L'événementiel culturel aussi. Et tout ça m'a finalement ramenée dans un studio de télé où un jour, j'ai décroché la carte de presse et où je suis devenue journaliste. Donc
Justement, je voulais revenir là-dessus. Tu me disais quand on préparait l'épisode que tu avais voulu rentrer au CELSA.
Ouais.
CELSA qui est une grande école de com, journalisme, tu m'arrêtes si je me trompe.
C'est ça.
Qui est un peu le Graal quand on veut faire une école de ce type-là.
C'est ça, c'est la Sorbonne en fait. Ouais. Donc la Sorbonne, ça fait rêver. Moi, j'étais une petite littéraire, je trouvais ça formidable. Bon, ils n'ont pas voulu de moi non plus.
C'est ça, donc ils n'ont pas voulu de toi non plus. Mais du coup, tu me parlais de médiation culturelle. Tu as fait plutôt des études tournées dans ce sens, finalement.
Exactement, communication, médiation culturelle.
Ouais, ok. Et ensuite, quel poste tu as occupé avant de, justement d'arriver à TV Tours, comme tu nous le disais ?
Quand j'ai fait ça, c'est parce que j'étais vraiment passionnée de Cinoche et que ce que je m'imaginais faire, c'était être attachée de presse dans le cinéma. Je voulais être au contact des gens qui font du cinéma, je voulais pouvoir approcher ça de près. J'ai compris après, pendant mes études, qu'être attachée de presse, c'est formidable. Alors, j'ai des amis très bien qui s'appellent Émilie aussi, qui sont attachées de presse, mais j'avais pas envie de travailler finalement sur comment faire parler d'un projet que je n'avais pas mené moi-même, ouais, puisque c'est beaucoup ça, c'est finalement aller convaincre des gens, aller essayer de faire parler de quelque chose qu'on n'a pas contribué à créer, et je pense que c'était ça qui me manquait finalement lorsque j'ai réalisé ça, et c'est là que la médiation culturelle m'avait plu. Alors j'ai pas été médiatrice genre dans un musée pour parler des œuvres d'art et tout, oui. Moi j'ai beaucoup fait de, finalement c'était de la prod déjà, c'était de la prod événementielle où là on travaillait avec ma copine Émilie qui est aussi attachée de presse.
beaucoup d'Émilie tout ça.
Mais c'est la même, c'est Émilie Leduc qui m'a accompagnée à peu près toute ma vie. C'était La Forêt des Livres, notre projet sur lequel on a énormément travaillé avec une fille formidable, même si elle s'appelle pas Émilie, elle s'appelle Alexandra McDonald.
D'accord.
Mais on a finalement fait grandir cette équipe de trois filles, fait grandir beaucoup un festival qui avait été créé par Gonzague Saint-Brice, qui est à Chanceau Préloche, qui existe toujours aujourd'hui sous le nom des écrivains chez Gonzague, avec D'accord. une équipe super aussi. Mais c'est là où j'ai goûté aussi à mettre les mains dans le cambouis, et même si le cambouis de la forêt, c'était d'organiser le fait que 30 000 visiteurs puissent aller faire pipi alors qu'il n'y a qu'un toilette dans la forêt de Chanceau.
C'était pas que ça, mais c'était ça aussi, je comprends.
C'est pas très noble, et la médiation culturelle, derrière il y a des choses où il faut vraiment faut pas être timide, il faut savoir gérer l'accueil finalement de gens et leur accès à la culture, même quand il s'agit de pipi caca. et ça c'était mes premières armes, on va dire, dans le métier, enfin dans ce que c'est que l'univers professionnel, la com et la culture. Et puis il y avait aller voir les institutions pour leur dire, vous voulez pas nous donner quelques euros pour monter l'événement?
C'est pas simple non plus,
mais c'est la réalité d'un chef d'entreprise comme aujourd'hui aussi dans les médias, c'est de travailler beaucoup avec les institutions, c'est de travailler beaucoup avec les instances culturelles, c'est de travailler beaucoup avec la valorisation de notre territoire, et tout ça, c'était déjà un petit peu dans cet ADN-là, quoi, on va dire. Après, je fais de la com, d'entreprise. Ce qui est bien avec la com, c'est qu'on peut le faire à peu près sur tout, des routes bagnoles au luxe, c'est ça. On est toujours en train de parler de comment faire connaître quelque chose, comment le transmettre.
Okay.
Et du coup, me voilà tout d'un coup...
Arrivé à TV Tours, comment Tour. Explique-nous un peu, alors sans forcément rentrer dans le détail si l'histoire est trop longue, mais en tout cas, comment tu es arrivée à TV Tours ?
Est-ce que j'ai encore le droit de parler d'Émilie Leduc ou pas ?
Vas-y.
On passe notre vie à nous échanger nos métiers, c'est un peu, c'est un peu comme ça que j'y suis arrivée. J'ai commencé parce qu'elle travaillait ici,
D'accord.
à la base, dans la première équipe de TV Tours Val-de-Loire qui a été créée il y a 16 ans. Et puis, un jour, un invité des commandes pour une émission qui s'appelait Tout sur un plateau et qui était animée par Jean-Baptiste Boursier, qu'on salue à BFM TV, et qui m'a dit, oh là là, on devait faire un truc sur les fringues vintage, notre invité a un empêchement, toi t'as plein de fringues vintage, ça te dirait pas, t'aurais pas le temps de venir et tout, et je suis venue, et ça s'est très bien passé en plateau. Il
D'accord.
m'a dit, mais vraiment c'est super, on a l'impression que tu te sens
ça
bien,
toute ta vie,
t'es comme un petit poisson dans l'eau là-dedans, t'as pas peur des micros, t'as pas peur des caméras, tiens, tu veux pas faire une chronique régulière? Riche idée, car j'ai ensuite été à la tête d'une chronique qui s'appelait J'ai testé pour vous. Alors j'ai testé pour vous plein de trucs, hein. La pole dance, le kayak en eau,
super.
Livreur de pizza, toiletteur pour chien où il faut vider des glandes anales de caniche. Ouais, c'était super.
Ok, pour finir après, on sait que tu as animé
c'est ça.
L'émission Tout sur un plateau, si je dis pas de bêtises.
Exactement, l'émission où je chroniquais. Au final, l'équipe change, Émilie s'en va, me dit mais fais le casting, je pense que ça pourrait très bien fonctionner. Et en réalité, c'est vrai que ça a bien fonctionné.
Ça a bien matché. Pendant
même
combien
si,
de temps ?
Pendant 9 ans. Non, même si c'était un vrai pari, je pense, pour les gens de l'époque qui m'ont recruté, parce que c'est ce que je t'avais expliqué en préparant cette interview, mais c'est sûr que sur le papier, moi qui dirige la chaîne aujourd'hui, remplacer une meuf qui s'appelle Émilie qui est brune par une meuf qui s'appelle Émilie qui est brune.
Oui, c'est ce que tu me disais, effectivement.
C'est pas le meilleur choix. T'as envie de dire non, mais ça a changé, c'est un peu différent et tout. Et clairement, voilà, merci pour leur confiance à cette
Ils
époque-là.
Parce que, ouais. C'était bien vu parce que tu es restée à la tête de l'émission, présentatrice, 9 ans.
9 ans à la présentation, puis comme on est une petite chaîne, t'es au four et au moulin, donc c'est-à-dire que tu fais pas que présenter comme dans les grandes chaînes où on t'écrit tes fiches et on te programme tes invités.
Oui, c'est ce que je voulais que tu nous dises, justement, parce que tu n'étais pas que présentatrice de Tout sur un plateau, il y a tout le travail en amont.
Exactement.
Qu'on ne voit
Alors,
pas.
Ça, c'est une spécificité des petites chaînes, ouais. Des petits médias en général. Il y a marqué un truc sur ta fiche de paye, ton profil de poste. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a un truc d'écrit, mais tu as 17 autres trucs ouais. que tu fais parce que, un, on est des petites équipes, donc il faut être hyper polyvalent.
Bien sûr, ouais.
Mais deux, parce que c'est assez génial et c'est constitutif, on va dire, de l'esprit des petites chaînes comme ça, c'est que tu peux toucher à tout.
Ouais.
Tu peux, et je reprends cet exemple qui est vrai, tu peux être technicien de diffusion dans ta cabine de diff à préparer la playlist de ce qui va être dans l'écran des gens ouais. et dire je mettrai bien une émission à l'antenne sur la musique locale et ça va se faire.
C'est dingue, du coup, ouais. c'est une chance quelque part, je pense.
C'est génial.
Avec du recul, c'est génial de pouvoir.
Ça peut être difficile parfois d'être une petite équipe, de devoir tout gérer, d'être en train de dire que, je sais pas, l'assistante de production, elle va aussi faire de la mise en contenu, enfin la mise en ligne des contenus sur les réseaux sociaux et puis elle va aussi gérer l'administratif des copains. Prod et tout, enfin voilà, c'est parfois difficile, mais en même temps, c'est une créativité. Si jamais tu vois l'opportunité là-dedans, mais c'est l'époque où, je sais pas, où t'avais, ça me fait toujours penser à ça, même si on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est t'as Eric et Ramzy qui sont chez Nova et qui disent, tiens, ouais, on va faire n'importe quoi à l'antenne et ça va passer. Bah oui,
ouais.
On fait pas n'importe quoi, mais on a l'occasion de tout tenter. C'est un énorme labo, en fait. On peut se dire, tiens, si on tentait un truc autour de ça, moi, je compte plus le nombre de trucs que j'ai fait à cette antenne
ouais.
parce qu'on a la possibilité de le faire et que si t'as une idée, bah ça y est, t'as ton labo, t'as tes caméras, t'appuies sur play,
c'est génial,
c'est parti.
Ça. Ouais, c'est génial. Quand t'aimes les médias, quand ton métier, tu adores ce que tu fais, c'est ouais. génial de pouvoir tester plein de concepts. Et en plus, c'était tout sur un plateau quotidienne en direct en plus.
Oui.
Ça t'a pas fait peur de reprendre un poste comme ça parce que tu passais de chroniqueuse à présentatrice ouais. de l'émission et en plus quotidienne en direct. Enfin, c'est pas le même.
Terrifiant. Épouvantable. Je pense que je sais pas, j'ai jamais autant transpiré des aisselles de ma vie. Mais oui, c'est vrai, c'est dur. Chroniquer déjà, c'est difficile quand on n'a jamais fait, on est hyper impressionné. Et puis après, quand on anime, quand on chronique déjà, on regarde l'animateur en disant putain, mais je pourrais jamais. Pardon, purée, je ne pourrais jamais faire ça, mais ouais. c'est dingue. Là, on conduit le bateau. Et d'ailleurs, c'est l'exemple que je donnais à chaque fois. Je disais. Il faut que je conduise, monter à bord, quoi. Monter dans le train, là. Mais moi, je ne sais pas où je vais, mais ouais. on va tous y aller ensemble. Et c'est terrifiant. Et à la fois, je ne connais pas, à part peut-être la scène, parce que je fais aussi un peu d'animation. Enfin, j'en ai fait en tout cas pas mal à animer. Alors, c'est pas, je n'ai pas animé des trucs incroyables, mais des congrès où tu as 3000 personnes.
Ouais, quand même.
Tu dis un truc et si les gens se marrent, tu dois t'arrêter pour laisser ce temps. Pour reprendre ta phrase, c'est peut-être le truc le plus vertigineux que je connaisse avec l'antenne. C'est ouais. L'antenne, c'est un saut en parachute, sans parachute, quoi. Tu sais jamais. Alors après, voilà, tout est mesuré. Hein. Je veux dire,
bien sûr,
on ne joue
oui.
pas notre quand vie même. Quand on est à l'antenne, mais tu as l'impression de la jouer parfois.
Ouais. Ok. Et tout à l'heure, tu nous parlais de la carte de presse. C'est un peu le Graal, ça, non ? Quand on veut être journaliste, est-ce que toi, quand tu as eu ta carte de presse, tu te dis, ça y est, là, il se passe un truc, quoi.
Ah ouais.
Malgré, et je me permets, malgré le fait que tu ne sois pas passé par les études, entre guillemets, classiques, tradies,
non.
par lesquelles on passe pour être journaliste.
Ça, je peux l'adresser à toutes les petites jeunes personnes qui nous écoutent et qui rêvent d'être journalistes et qui ont raté leur entrée dans les écoles de journalisme qui sont diplômantes, parce qu'il y a des écoles qui ne sont pas forcément diplômantes, mais il y a des écoles dont on sort avec la carte de presse. Ouais, non, pas moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. Le journalisme a ceci de particulier que c'est encore un des seuls métiers qui est diplômant de fait par le terrain.
Oui.
C'est-à-dire que si tu arrives à montrer que de tes revenus, même s'ils sont micro, tu as 51% de tes revenus qui sont générés par ton activité de journaliste, tu deviens éligible à la carte de presse et tu peux faire ton dossier pour le SNJ qui va te dire oui ou non.
Oui.
Et moi, c'était oui parce que c'est une petite structure. J'aurais été juste présentatrice, effectivement.
Oui,
pas sûr que je l'aurais eu. Et d'ailleurs, une animatrice, généralement, n'a pas la carte de presse. Parlons à Pascal Clark qui l'avait perdue. Parlons à tous ces gens qui l'ont perdue. D'ailleurs, ouais. Je fais un parallèle, je l'ai perdue. Je l'ai perdue, ma carte de presse, en devenant directrice de la chaîne et responsable de la prod audiovisuelle du groupe. On m'a dit, vous n'êtes plus journaliste, madame. Vous êtes
d'accord.
autre chose. C'est pas grave.
Oui, oui.
Mais vous ne l'êtes plus. Mais oui, c'est ça qui est assez génial. C'est que tu as plein de chemins, en fait, pour rentrer dans ce métier. Contrairement, à chaque fois, je le prends cet exemple, mais tu ne peux pas te déclarer médecin et tout
oui.
d'un coup dire je vais faire ça parce que regardez, il y a des gens qui me payent pour les soigner et je vais envoyer mes relevés de compte à l'ordre des médecins qui va me donner ma carte professionnelle. Non. Or, les journalistes, c'est la valeur de l'expérience, la valeur de la reconnaissance que te porte ton média si t'es pigiste, de tes
oui.
médias, qui finalement va faire que oui, tu es reconnu comme membre de ce métier-là. Et ça, je trouvais ça assez génial. Effectivement, quand je retrouve ma carte de presse la première fois dans ma boîte aux lettres, je suis là, merde. Bah ouais, ça y est, c'est... mais fuck la vie, qui me demandait que je pourrais pas le faire, j'y suis arrivée. Après, je suis descendue parce que de l'autre côté, je l'ai retournée, il y a marqué stagiaire. J'étais hyper vexée.
Mince.
Mais en fait, il faut savoir que quand tu reçois ta carte de presse, pendant 2 ans, il y a marqué stagiaire.
Ouais, d'accord.
C'est faux, c'est juste un statut avant que tu sois bien dedans. Mais ça, il a fallu qu'on me l'explique.
Ouais.
Mais ouais, j'étais hyper fière.
C'est bien qu'on parle de ça parce que je trouve qu'on est dans une société où effectivement, tu as certains métiers où il faut faire telles études, telles écoles. Mmh. Et c'est bien d'aborder ce sujet pour montrer aussi que on peut passer par des chemins de traverse pour arriver à son but, que c'est pas grave. Et par contre, toi, est-ce que t'as vu une méfiance ou je sais pas, par rapport au fait justement que tu sois pas passée par les grandes écoles de journalisme ou pas du tout dans ton...
À mon niveau, non. Ouais. D'abord, pas de méfiance en externe, parce qu'à partir du moment où tu te présentes comme journaliste, les gens... Enfin, tu vois, il y a encore quelque chose qui se provoque chez les autres autour de ce nom-là. Alors, parfois du négatif, ouais, les journalopes et tout, machin, les gauchias, ce que tu veux. Parfois, ça peut être un peu brutal, parce que les gens ont beaucoup été en rejet de certains médias, de hard news, des trucs comme ça. Il y a une confiance qui est assez perdue à un moment aussi, et là, j'ai l'impression qu'on est en train de la reconquérir, ou alors c'est parce que c'est un effet de loupe,
notamment
parce que c'est les médias locaux.
Ouais,
c'est ça. Tu fais plus confiance à tes médias locaux et les indicateurs le montrent. Il y a des études qui sont faites là-dessus, mais parce que nous, on est sur le terrain, on connaît la réalité aussi de notre territoire, que si les gens ne sont pas contents, et parfois ils ne sont pas contents, ils décrochent leur téléphone et nous, on répond.
Oui.
Quand on a des gens qui téléphonent à la rédac pour dire bonjour, vous avez dit à la météo qu'il allait faire 17 degrés, je suis dans mon jardin, il fait 16.
Vous avez vraiment ce genre d'appel à la rédac?
Bien sûr qu'on en a. Et bah, du coup, tu te dis, ah ouais, d'accord, bah, désolée. Vous êtes où? Chambre sur Inde, ah, c'est pour ça.
Non, mais c'est vrai que tu as le contact et le relationnel, c'est pas pareil. Et effectivement, la confiance, je pense qu'en local,
clairement,
elle est plus importante.
Et puis, les journalistes d'ici, tu vois, je sais pas, le journaliste sportif, il est en bord de terrain depuis 16 ans.
Ouais, c'est
Enfin, tu vois, ils les connaissent aussi, les gens. Donc, ça fonctionne bien. Mais tu vois, ce métier, il est particulier aussi. Moi, je ne suis plus journaliste aujourd'hui. Depuis un an, je ne suis plus journaliste. voilà, la commission m'a dit non, vous n'êtes plus journaliste. Mais tu vois, c'est quand? C'est au mois d'avril, je crois. Je ne me souviens plus, le congrès...
Les assises du journalisme.
Les assises internationales du journalisme de Tours. Et moi, je vais avoir la chance pour la deuxième année consécutive de faire la remise des prix, d'animer la remise des prix et de participer au jury du prix de l'EMI. Et l'EMI, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Donc, je ne suis plus journaliste, mais c'est toujours dans mon ADN au final. Et voilà. Et je travaille au contact de journalistes tous les jours pour travailler sur l'info locale, et je conçois toujours des stratégies pour aller encore plus près des gens, et je me considère pas plus journaliste parce que j'ai plus la carte en vrai.
Ouais, je comprends. Et du coup, tu nous disais que aujourd'hui, tu es directrice déléguée de TV Tours,
ouais,
responsable de production audiovisuelle du groupe NR. Je relis mes petites notes pour pas me tromper. Est-ce que tu peux... Alors, première question, comment ça s'est fait, le passage de « je présente tout sur un plateau et je deviens directrice déléguée de TV Tours
?»
Et deuxième partie de ma question... Est-ce qu'on t'a proposé le poste? Est-ce que t'en avais envie? Est-ce qu'il y avait déjà eu des discussions? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
Ouais, il s'est passé plein de choses. Tout sur un plateau, c'était ma première émission, on va dire, qui était 100% culture. Moi, je l'ai remaniée au fur et à mesure des années. C'est devenu une émission qui s'appelait Tilt, qui était toujours à la même heure, toujours en direct. Mais l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit plus ancré dans le quotidien des gens. Mm-hmm. Et tu peux pas, pour moi, en local, faire une quotidienne sur de la culture. Parce que la consommation culturelle des habitants du territoire, même si elle est régulière, même si on va tous un peu au ciné de temps en temps, même si on pousse tous un peu la porte d'un musée, et encore pas tous, combien de fois par an tu vas, je sais pas, au CCN, au centre chorégraphique, combien de fois par an tu vas au théâtre? Et je me disais, c'est pas parce que cette vie culturelle, elle existe, qu'il faut qu'on fasse centrer finalement la totalité de notre émission dessus. On va pas pouvoir aller dans le populaire, au bon sens du terme. Il faut qu'on soit à la réalité du contact avec les gens et de ce qu'ils font de leur journée au quotidien pour pouvoir leur parler de ce qui les intéresse. Du coup, je l'avais élargi énormément à tout ce qui était toujours positif, mais ça peut être associatif, ça pouvait être, tu vois, tout ce qui est... on a fait la SPA,
on faisait plein de découvertes sur plein de sujets très différents. Ouais.
C'est ça. Il y avait de la culture, bien entendu, mais c'était plus 100% culture. Et il y avait vie pratique. Tiens, je sais pas, le petit commerce qui a réouvert, finalement, il n'y avait plus de commerce, où il n'y avait plus de coiffeur dans tel bled, et ben, il y en a un couvre. Ça fait un sujet, même si tu vois, on est quand même... C'est pour ça que la carte de presse, finalement, j'ai une relation un peu difficile. Enfin, pas difficile, mais en tout cas, elle est sporadique avec elle, parce que des fois... pour parler de la valorisation, tu es obligée d'un peu braquer un projet sympa et pas forcément que factuel pour dire hey, c'est de la valorisation, c'est cool, vous avez réouvert un commerce. Sauf qu'en fait, c'est un peu de la pub. Ce coiffeur a ouvert, voilà, diminutif a ouvert, a joué les tours, et ben on est à border, tu vois.
Ouais,
mais c'est aussi de l'info locale, c'est aussi un peu du serviciel. Et c'est pour ça que moi, le journalisme serviciel, ça me parle aussi parce que je voyais cette petite info utile en plus, même si elle peut parfois être un peu commerciale. Finalement, quand tu dis l'exposition machin, elle est au musée truc et elle est du temps au temps, l'entrée généralement elle est pas gratuite, donc c'est quand même un petit peu de la valo, c'est quand même un petit peu commercial. Donc voilà, moi je suis pas drapée dans une déontologie anti-valorisation, au contraire, et d'ailleurs on y vient de plus en plus avec le journalisme positif. Donc j'avais cette émission qui était comme ça, voilà, mais ça faisait 9 ans que je travaillais dessus, j'avais créer d'autres émissions, mais quoi qu'il arrive, je créais d'autres émissions parce que j'avais besoin.
Oui, tu ne faisais pas que ça, bien sûr.
Non, mais c'est même pas ça, c'est que j'avais besoin de me challenger, de faire. Le quotidien, c'est une énorme machine. Tu étais dans ton hamster dans ta roue tous les jours, il faut repartir. C'est un gros boulot.
C'est ça, la quotidienne tous les jours.
Mais j'avais envie de créer des nouveaux trucs et de me marrer. On a fait plein de trucs. D'ailleurs, juste avant qu'on me propose ça, j'avais lancé Qui veut gagner des rayons.
Mais oui, qui est toujours,
à l'antenne. Le premier jeu, c'est un concert local. On n'a pas de thunes, mais on va te faire gagner des trucs qui parlent de
ton carton.
Bah ouais, ça marche bien, mais parce que les gens, en fait, c'est le divertissement, c'est un vrai format télé qui est prégnant dans toutes les télés, sauf les télés locales. On s'est jamais emparé, à ma connaissance, avant Qui veut gagner des rayons, d'une case jeu, d'une case vraiment div, alors que c'est aussi du patrimoine. Enfin, tu vois, je veux dire, on peut faire du documentaire sur les agriculteurs près de chez nous, sur la diversité de la proposition artistique, on peut faire de l'exploratoire, on peut faire plein de choses, tu vois, des petits formats. On est très patrimoine, on adore ça, le patrimoine, et tout ça dans les télés locales. On fait de l'écho, on fait beaucoup d'écho, on fait du sport, bien sûr.
Oui.
Mais finalement, le jeu... J'en avais pas vu et moi, j'adore ça.
Bah, c'est top. Bah, puis c'est une façon détournée de parler de l'info locale, du territoire
aussi. Parce que c'est un quiz. Donc,
c'est
un quiz avec... tu te marres, mais t'apprends des trucs
au
final. Et puis, c'est la première fois aussi que je pouvais avoir à l'antenne des gens qui n'avaient rien à vendre, entre guillemets. Je te parlais tout à l'heure de faire un peu de pub, de promo et tout, voilà. Mais là, t'as le droit de venir même si t'as absolument rien fait.
Ouais.
Même si t'es, retraitée, femme au foyer, que t'as pas un projet à porter, quelque chose à défendre... quelque chose à montrer ou à témoigner, là, tu as le droit de venir en disant « Bonjour, je m'appelle Nicole, j'habite dans le sud de Lochoir. » Salut Nicole, d'ailleurs, parce que je l'ai eu dans l'émission pour la 50e, bien sûr. Et la Touraine du Sud, c'est trop beau et c'est génial. Et je suis juste contente de venir jouer un peu, quoi.
Ouais.
C'est cool, parce que tu mets des gens à l'antenne qui sont les gens qui sont censés te regarder. D'ailleurs,
bien
peut-être
sûr,
même qu'ils vont encore plus regarder s'ils sont dedans.
Oui,
donc, voilà. Donc, il y avait ça. Et puis, en réalité, j'ai été un peu... Mais c'est un peu la ligne directrice de toute ma carrière. C'est... J'ai beaucoup eu la chance qu'on me propose des choses.
Oui.
Donc là, en l'occurrence, il y a eu un appel d'air puisque l'ancienne directrice de la chaîne a quitté la chaîne. C'était en septembre, je crois, 2021. Déjà, mon Dieu.
Ça passe.
Terrible, ouais. Et puis, dans la foulée, y a un trou. Faut bien remplacer. Donc, on se disait, oh là là, ça va être qui, tout ça. Et puis, finalement, mon président du directoire, Olivier Saint-Cric, salut président, m'appelle dans son bureau en me disant, je voudrais, pourquoi pas toi, quoi. Je te verrais bien à cet endroit-là. Et je lui dis, mais d'accord.
Tu as tout de suite dit, d'accord.
Non, au début, j'ai dit, non, t'es fou. Non, t'es fou parce que... Enfin, j'ai pas dit t'es fou, mais cela dit, il est un peu fou. Mais j'ai dit, ah là là, bah, c'était pas du tout ce que j'avais trop imaginé. J'avais d'autres projets en tête. J'avais aussi... En même temps, je suis un peu là pour raconter ma vie, non?
Un peu, donc je t'écoute.
J'adore. Je vais pas te raconter ma vie. Mais moi, j'ai eu une vie perso un peu chahutée ces dernières années.
Ouais.
Notamment, j'ai connu la maladie, ça fait une voix très grave. Mais j'en ai un peu ramassé dans la gueule, on va dire.
Côté perso,
Côté santé, en fait. Moi, j'ai eu... Je peux te le dire, j'ai réussi enfin, après une lutte acharnée, à faire un bébé avec mon amoureux. Et au moment où je tombe enceinte, on me dit « Ah, c'est con, votre cœur part en couille, il va falloir vous opérer.
Oui, »
Et donc, à la fois, je porte un bébé, à la fois, on me dit « Arrêtez complètement de travailler. » J'ai pas travaillé pendant un an et demi.
D'accord.
Et vous allez vous faire opérer à cœur ouvert.
Très bien.
On sait pas quand. pendant votre grossesse, après votre grossesse.
Les sentiments se mélangent, j'imagine, ouais.
Ouais. Tu sais pas trop où tu vas, t'es là, ah d'accord, ok, mais ça va aller sinon. Ouais, on va tous bosser pour que ça aille et tout, mais disons que si vous cherchez la raison du trou de la sécu dans Indre-et-Loire en 2018, ça pourrait être moi.
Ok.
Ça pourrait être moi, parce que ça a été un sacré dossier. Je pense que quand on commence à t'appeler par ton prénom dans les couloirs de l'hosto, c'est que bon... Il commence à t'avoir bien vu, c'était un peu mon cas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe médicale de Maboul. On a quand même de la chance à Tours ici avec ça. Mais moi, je suis une des seules personnes, par exemple, qui a accouché à l'hôpital Trousseau. Ils ont délocalisé une unité de maternité dans une unité de chirurgie cardiaque à Trousseau. Personne n'est à Trousseau. Quand mon mari s'est pointé à la mairie, parce que ça dépend de la mairie de Saint-Ave et pas de Chambray. Ouais. En fait, il s'est pointé à la mairie de Saint-Ave pour dire je vais faire une déclaration de naissance. Non seulement au début, on ne l'a pas cru, mais en plus, on a appris à appeler les stagiaires en disant va la chercher, venez on n'en a jamais fait, vous allez voir comment ça se passe et tout.
Oh, d'accord.
Les seules qui atterrissent à Trousseau pour accoucher, c'est celles qui n'ont pas le temps d'arriver jusqu'à la sortie d'autoroute, quoi, tu vois. Donc, il s'est passé ça et si tu veux, je lui ai dit bah, déjà, moi, entre le Covid et ça, c'est clair que le boulot, je m'éclate dedans et clairement, j'organise ma vie pour que le boulot soit épanouissant et c'est génial. Mais par contre, c'est plus devenu le centre de ma vie à ce moment-là. Quand tu te retrouves avec un gars en face de toi qui te dit « Est-ce que vous avez pensé, un chirurgien, est-ce que vous avez pensé à faire votre testament ?» qui te dit ça va bien se passer quand même. Dit, « Oui, oui, mais faites-le quand même. » Ok, et que tu es avec ton petit papier. Enfin non, en l'occurrence, j'avais mon clavier. Mais, et que tu commences à lister les trucs. Tu sais, tu le fais un peu comme dans les films. Je vais léguer ma broche, ma fille. Enfin, des trucs comme ça. Mais en fait, il n'y a pas un moment, même si j'adore mon boulot, il n'y a pas un moment où le boulot est revenu à ce moment-là. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, merde, j'aurais bien aimé faire ça dans mon taf.
Oui,
tu vois
bah oui, je comprends. Ouais, ouais.
Ça te permet aussi de vachement prendre de hauteur et de... Je ne dis pas qu'il faut abandonner ton job. C'est chacun son parcours. Ouais, tu vois, je n'ai pas décidé du tout d'abandonner mon job. La preuve, j'ai grandi dans mon job. Mais par contre, je savais que je n'étais pas prête à tout. Et que ce petit bébé avec qui j'avais pas pu être comme je le voulais au début, parce que bah, quand tu te fais opérer et que ton bébé c'est un nourrisson, et je te dis les choses trivialement, mais quand on t'ouvre le capot et qu'on t'ouvre le torse, t'as pas le droit après de prendre des choses lourdes dans les bras.
De l'éducation.
Et les choses lourdes, c'est des bébés. Donc ce bébé, si tu veux, ma fille, pendant les trois premiers jours, on n'était pas ensemble et tout, et je me suis dit juste. Faut pas que je construise aussi toute ma carrière autour d'un job qui va me demander de partir en déplacement à l'autre bout du monde, comme ça m'avait arrivé dans certaines autres expériences où je travaillais dans l'événementiel de luxe et tout pendant plusieurs années, où je partais à droite à gauche un peu du jour au lendemain, en Suisse, aux États-Unis et tout.
Ouais, tu revois tes priorités, ta façon
ça craint
de...
ou pas quand je dis ça.
Un peu, si, si, j'avoue.
Je travaillais dans le co-branding entre l'horlogerie et le vin. Ce sera l'objet d'un deuxième podcast.
Tu vois l'avenir autrement et la façon...
Tu dis, j'ai besoin d'être là aussi, tous les jours. J'ai besoin d'aller de temps en temps chercher ma fille à l'école. Et du coup, quand mon patron m'a proposé ce job, je lui ai dit, ok, mais alors non. Aussi parce que moi, je ne pourrais pas faire ce que tu me demandes. Enfin, en tout cas, je ne pourrais pas faire certainement ce que tu es en droit d'attendre.
Oui.
C'est-à-dire que les réunions à 18h, tu m'oublies. s'il faut faire des tas de trucs et ne pas être chez moi, bah, ça ne marchera pas.
Oui.
Et il m'a dit, mais non, mais on peut construire ce job. Parce que ce job de responsable de la prod audiovisuelle n'existait pas.
Oui. Donc, la partie directrice déléguée TV Tour, là, c'était le remplacement de la personne qui est partie.
Exactement.
Mais le responsable de prod audiovisuelle du groupe NR, ça, c'était
une création. Autour du profil à la fois que moi, je pouvais prendre et puis à la fois aussi au cœur de la stratégie du groupe, puisqu'on est un groupe de PQR, donc de presse quotidienne régionale, un canard, quoi, clairement. et qu'aujourd'hui, on sait que ce soit dans ma télé, ou que ce soit dans le journal, les gens, aujourd'hui, dans leurs usages, ne vont plus attendre soit le JT, soit le journal papier du lendemain pour avoir leurs infos. Aujourd'hui,
C'était intéressant. Tu me parlais de ça, je vais te laisser développer, mais tu me parlais de ça quand on préparait l'épisode et c'est tout à fait vrai, on ne s'en rend pas forcément compte, mais aujourd'hui, effectivement, on n'attend plus le JT du soir pour avoir les infos.
Ça n'empêche pas de le regarder de temps en temps, et tout, il n'y a pas de souci, mais la plupart du temps, tu as déjà pris connaissance de ce qui allait être traité et tu as envie d'aller un peu plus loin quand tu vas regarder ton JT. Tu veux avoir l'intégralité de l'info, mais tu sais déjà à peu près ce qui s'est passé.
Ouais.
Donc, du coup, nous, on a besoin d'être aussi organisés, on va dire, autour de ces usages-là des gens, de leurs attentes, et on ne peut plus faire de la télé ou faire un journal comme on le faisait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, si tu veux, le journal est obligé aujourd'hui de faire ce qu'on appelle sa transition digitale. Il transitionne. Mais ça devient aussi une plateforme, ça devient aussi une appli. Et Dieu sait que sur Internet, la vidéo est un plus dingue parce que tu as envie, je ne sais pas si tu vas... couvrir un concert, si tu as un journaliste de l'ANR qui va couvrir un concert ou qui va couvrir un incendie ou une manifestation, un truc comme ça, les gens aujourd'hui sont en droit, ils en ont l'habitude, ouais, d'avoir envie de voir des images qui bougent, de voir l'extrait des balances du truc, parce que nous, on est là, venus en avant-première sur le concert pour voir comment le gars allait faire son truc, ou de voir les défilés des gens, et puis peut-être un mec qui dit pas content. Enfin, tu vois, juste...
Ouais, non, mais on consomme beaucoup ouais, de vidéos aujourd'hui. Oui,
83%, je crois, des contenus. Ouais. Qui transitent par Internet en cette année sont des contenus vidéo. Et ce n'est pas que Netflix, c'est aussi de l'info, c'est aussi, je prends souvent cet exemple, mais la page Facebook de ton petit coiffeur de quartier, parce que maintenant, tout le monde en fait de la vidéo et c'est ouais, tellement rentré dans nos usages qu'il faut qu'on en produise, il faut qu'on fasse ça. Donc, si tu veux, c'était aussi l'objet de cette création de poste, c'est de faire en sorte qu'on soit en adéquation de plus en plus avec les attentes vidéo.
Bien sûr, ouais,
de notre territoire, des gens qui sont sur notre territoire, et ces 5 départements, la Nouvelle République, au contraire de TV Tours qui en couvre 2 uniquement, mais on les couvre vraiment, pour le coup, je pense, de façon transversale. Et l'idée, c'est d'avoir à chaque fois une plus-value. Quand je te dis que Dany la Tourangelle est morte il y a quelques mois, tu en fais un article si tu es journaliste à la Nouvelle République. Mais si aujourd'hui, nous, on est en capacité de te dire, tu as l'article de Dany qui était Tourangelle depuis tant de temps et tout, et elle est décédée, voilà ce qu'elle avait fait dans sa vie. Mais que nous, à TV Tour Val-de-Loire, on est capable de te fournir un extrait de son dernier plateau télé ever, ouais, parce qu'elle a enregistré avec Lucas Chopin ici des inédits de son prochain album avec une fille qui s'appelle Émilie d'ailleurs, qui était sa guitariste.
Encore une Émilie.
Mais oui. Et ben, waouh, c'est cool. Ouais. Enfin, tu vois, t'as, tout d'un coup, t'as quelque chose de
c'est
plus que
plus
tu peux
et,
proposer
ouais,
à tes abonnés. Si tu dis que, je sais pas, il y a une course sportive, un club associatif ici qui a remporté, je sais pas, comme le club de Chinon de foot qui est génial, qui performe à fond et que nous, on l'écrit. Enfin, l'ANR l'écrit, et puis que moi, j'ai un journaliste reporter d'image de TV Tours qui a été faire un bord de terrain avec l'ambiance
ouais,
du match,
oui,
avec le micro tendu au petit club de supporters et tout, pour dire « ouais, on les aime » et tout, parce que tu veux. Bah ouais, c'est cool, c'est une
ouais,
vraie plus-value.
Et, plus complète, ouais,
et c'est ça l'objet, en fait, d'être complémentaire et de plus en plus avoir de contenu qualitatif. Et nous, on en fait du contenu qualitatif pour nos abonnés NR, ou pas pour nos abonnés d'ailleurs, parce que nous, on fait de l'info, nous, à TV Tours, c'est gratuit, t'as pas
oui,
besoin de t'abonner pour avoir le contenu. Mais donc, c'était ça aussi l'idée. Et donc, c'était hyper stratégique aussi dans la vision, on va dire, du groupe, de créer ce poste autour de moi,
ouais,
de la fonction aussi de directrice déléguée d'ici. Et du coup, quand j'ai dit à mon boss, oui, non, machin, il m'a dit, tu sais quoi, tu fais la liste des pour et des contre, et puis après, tu me la montres,
et on
verra, et on en discute, et à la fin, on a dit, ok, d'accord, on y va. Et on est parti comme ça.
Et tu me disais aussi que tu avais d'autres fonctions. Tu étais présidente du comité stratégique de Territoire TV. Tu
ouais,
peux
ça,
rapidement m'en
ça
parler.
Ça en jette ou pas?
Bah, ça en jette. Rien quand je le dis, on l'entend. Hein. Président
Personne
du comité
ne sait
stratégique.
Ce que c'est, mais c'est complètement dingue.
Justement, dis-nous.
Ouais, je préside, ouais, carrément. Alors, Territoire TV, en vrai, on est toujours dans la même un peu dynamique. En fait, notre écosystème des médias locaux est en bouleversement depuis 3-4 ans, je dirais, même peut-être un peu plus. Aujourd'hui, si tu veux, ça n'a plus rien à voir avec il y a 5 ans, je pense. Si je te fais l'historique des télés locales, c'est il y a une vingtaine d'années, tout le monde commence à faire des télés locales, c'est trop cool, tout le monde veut sa petite télé et tout, super. Après, au bout de 3-4 ans, on se rend compte que merde, il n'y a pas trop de modèle économique derrière,
ouais,
c'est difficile quand même de faire vivre une télé. Donc, de cette espèce d'âge d'or, on commence à avoir une espèce de petit déclin avec des chaînes qui ferment, etc., qui n'étaient pas toutes organisées de la même manière. Et puis des collectivités qui saisissent du truc en disant non, mais nous aussi, on a besoin qu'il y ait une espèce de, comment je pourrais dire, de service public d'accessibilité à l'information.
Oui.
Clairement, si aujourd'hui, nous, les médias locaux, que je parle de télé ou que je parle de
oui,
presse
de
ou de ce que tu veux,
oui,
si nous, on n'est pas là pour, j'allais dire, animer un peu la vie citoyenne, ça fait très pompeux, mais si on n'est pas là pour parler, par exemple, des élections locales, en disant il y a vos députés qui vont être élus, il y a vos élections municipales et tout ça, où est-ce que tu vas trouver ces infos-là? Tu ne vas pas te les trouver sur LCI, tu ne vas pas te les trouver sur BFM, tu ne vas pas te les trouver sur M6, hein, mais c'est normal, c'est parce qu'eux, ils couvrent l'actu nation, puis tout d'un coup, ils vont dire, d'ailleurs, reportage à Marseille ou reportage à Lille, mais si tu as le bol d'avoir reportage à Tours, t'es là, ouais, super, mais c'est pas gagné. Alors que nous, justement, l'idée, c'est d'emmener les gens vers les urnes en leur disant, saisissez-vous aussi, regardez les projets que vont défendre le mec de droite ou le mec de gauche. Moi, on n'est pas là pour juger les projets, mais
bien
de
sûr,
dire
oui,
aux gens, voilà ce qu'ils sont, et saisissez-vous de ça, parce que derrière, c'est de l'argent public qui va être donné d'une manière ou d'une autre à des associations ou retirés à des associations ou à, tu vois, des, chacun défend un peu son projet. Je te parle des associations, mais il y a plein d'autres trucs.
Ouais, oui, bien sûr.
Beaucoup de choses, les institutions publiques. Donc, tu fais ce choix aussi, on va dire, en éclairé, si on t'éclaire. Et nous, on est là pour braquer un projecteur dessus. On invite les mecs en plateau pour dire, bah, vous en pensez quoi, vous, Michel, qui est plutôt à droite et tout. Enfin, voilà, c'est animer, on va dire, la vie démocratique. Ça, c'est une vraie... Ça, c'est une vraie fonction de nos médias locaux. Mais aussi, justement, je te parlais de serviciel, de dire il y a ci, il y a ça, oui. Ces mecs-là, ils sont en difficulté, ou au contraire, voilà cette initiative formidable. On est vraiment là pour valoriser aussi notre territoire, pour parler de ce qui s'y fait, de ce qui s'y joue, et faire en sorte que les gens soient... Ça fait très pompeux, encore une fois, j'arrête pas de me dire, mon Dieu, mais arrête de parler comme ça. Mais ça, tu sais, faire société, ça oui. fait complètement con de dire ça. Mais en fait, tu crées des communautés un peu. Si les gens savent ce qui se passe autour de chez eux, ils disent, ouais, dis donc, il est sympa ce petit sculpteur et tout. Bah, ils se connaissent et tout ça. Ah, bah tiens, il y a les portes ouvertes de tel asso, peut-être que je vais aller voir. Et en fait, les gens se voient, les gens se rencontrent, les gens.
Ça
en
crée
plateau.
Du lien, de toute façon, de la proximité. Ouais,
mais voilà, c'est ça. Et puis, j'allais dire, au-delà de la proximité, ça crée, je sais pas, une vie collective. Oui. Et nous, on est le reflet de cette vie collective et ça vaut vraiment, vraiment le coup, je pense. J'ai oublié ta question.
Mais je te demandais Territoire TV, la présidence, ouais.
Et donc, Territoire TV, il se trouve que je te disais, on a une fonction et tout d'un coup, il y a des acteurs super, super costauds, avec plein de sous, qui arrivent. En l'occurrence, Altice. Ouais. Altice, c'est Groupe BFM, Altice, c'est ouais. SFR, ils ont beaucoup de sous.
Beaucoup.
Et ils disent, tiens, on va commencer à acheter des chaînes locales. Donc, ils commencent à acheter plusieurs chaînes locales et tout, une, deux, trois, quatre, cinq. Là, les chaînes locales se disent, c'est quoi ce bordel? Merde, il faut peut-être qu'on s'organise, peut-être on pourrait s'organiser en réseau pour être plus fort à plusieurs. Ouais, d'accord, on a tous, pas tous, mais on va se mettre à plein dans un réseau qui s'appelle VIA. Et là, bah, coup de Bolloré, pouf, qui devient actionnaire principal de VIA? Ah bah, je te le donne en mille, Altice. Et donc, tout d'un coup, zut, comment on fait? Nous, on est des petits groupes de PQR. Nous, on est un petit groupe à l'échelle de certains.
Oui.
Mais tu vois, on s'est retrouvés à plusieurs, finalement. Enfin, moi, je dis « on », alors que je n'y étais pas à l'époque. Territoire TV a été fondé avant moi. Hein.
Oui.
Mais tu avais Sud-Ouest avec ses deux chaînes, donc TV7 et TVPI. Il y avait le Télégramme en Bretagne avec ses deux chaînes, TBO, TB Sud. Ouais. Il y avait La Voix du Nord avec ses deux chaînes locales aussi, les WEO. Et puis, qui viennent de racheter 20 minutes. Enfin, 20 minutes, c'était IDF1, mais ça va devenir ouais. 20 minutes TV. Okay. Et puis, nous, La Nouvelle République avec TV Tour. Et on a tous en commun d'être des groupes de presse locales qui ont des chaînes locales.
Ouais.
Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne serait pas plus... intelligents à plusieurs. Et si on se mettait ensemble, on fait une sorte de groupe d'intérêt collectif et tout. Ouais. Et c'est la structure Territoire TV. Et okay. on va essayer de mettre en commun finalement nos problématiques, nos bonnes pratiques, réfléchir un peu à notre écosystème. Et il en sort aujourd'hui 2, mais bientôt plus, émissions. Okay. Qui sont, l'idée, c'est de faire remonter les sujets des territoires vers le national.
D'accord.
De faire okay. du travail, parce qu'aujourd'hui, on a les infos nationaux qui descendent vers le territoire. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est faire remonter Inverse. L'info des okay. territoires vers le nationaux. Donc, on a deux émissions aujourd'hui. C'est extra-local, c'est une émission politique avec des députés, des acteurs de la vie civile aussi, le président de la Croix-Rouge, par exemple, okay. qui viennent faire face à des éditorialistes de la presse quotidienne D'accord, régionale oui. que nous, on représente, ou à des journalistes télé pour dire, bah tiens, et alors là, les déserts médicaux, bah on va vous expliquer comment ça se passe. Et d'ailleurs, on va l'illustrer avec des reportages de TV Tour Val-de-Loire oui, ou d'accord. de WEO, etc. Et puis, on va faire réagir les hommes politiques, les députés à ça pour qu'ils puissent prendre conscience aussi de ce qu'est la réalité du terrain. Mmh. Et on le fait avec la même chose avec la santé. Et puis, il y a d'autres émissions qui vont arriver, mais disons qu'on mutualise, on va dire, une vision, une stratégie aussi de diversification pour fournir des formats vidéo, encore une fois, qualitatifs pour nos plateformes et pour nos antennes de chaînes. Et ouais. aujourd'hui, on produit avec cette espèce de groupement collectif des programmes, mais beaucoup de chaînes locales les distribuent. D'accord. Parce que t'es pas obligé d'être actionnaire... le fondateur de Territoire TV pour pouvoir diffuser.
Oui.
Par exemple, TV Rennes, je salue la présidente Aurélie Rousseau, qui est la présidente du syndicat des télés locales.
D'accord.
Il récupère plusieurs formats d'émissions. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. Et juste, il les diffuse. Ça fait qu'on fabrique cet écosystème multirégional.
Ouais, ouais,
et l'idée, c'est d'occuper ce terrain de la région et de ne pas le laisser aux grands acteurs nationaux, voire internationaux.
Ouais, bah c'est génial d'avoir pensé de mutualiser tout ça.
Écoute, je suis d'autant plus à l'aise pour te dire oui que ce n'est pas mon idée. mais oui, aujourd'hui, j'ai la chance de présider le comité stratégique éditorial. L'idée, c'est de faire des choses qui sont aussi en attente, parce que comme on est sur des acteurs de la presse, il y a aussi besoin d'avoir le schéma télé opérationnel et éditorial. C'est des codes aussi, c'est des formats à la télé, et c'est sûr qu'on les connaît mieux quand on est patron de télé que quand on est éditorialiste de presse. Et du coup, c'est moi qui ai la chance de présider ça avec tous mes petits copains, Jean-Michel Lobo, Hubert Coudurier, et Nicolas Sterckx, bien entendu, qui est le président de Territoire TV, et de pouvoir comme ça se dire qu'est-ce qui fait finalement l'ADN d'une émission de Territoire TV, comment est-ce qu'on construit un format, comment est-ce qu'on va le faire en attente avec nos attentes à la fois de médias et de nos téléspectateurs ou de nos lecteurs sur la plateforme.
Voilà. Ouais, bah tu fais une bonne transition en citant les personnes que tu viens de citer, parce que justement, je voulais te poser une question. On va sur un sujet de la place des femmes dans les médias. Ça m'interroge un peu, et justement, comme tu es en face de moi, je voulais avoir ton avis, puisque de manière générale, dans plein de secteurs, les femmes sont souvent assez peu représentées. En tout cas, on n'est pas à une parité qu'on aimerait tous, et notamment dans les médias. Première question, est-ce que déjà tu as ressenti, un peu comme ma question tout à l'heure, une méfiance ou un manque de crédibilité, où on ne te prenait pas forcément au sérieux, entre le passage de « je présente tout sur un plateau, je deviens directrice déléguée de TV Tour, présidente du comité stratégique de Territoire TV, ou toi, à ton échelle, pas du tout ?»
Oui et non, c'est-à-dire que non, pas vraiment quand on me connaît, c'est-à-dire j'allais dire en micro, là, pas trop, parce que les gens qui me connaissent se sont plutôt dit, j'ai l'impression, après ça fait encore une fois, je me la pète, mais se sont plutôt dit, oh bah ouais, là, on est capable, c'est cool. Mais
aussi parce que tu avais une assise ici en local, que
exactement,
une légitimité. ouais, je comprends, mais après, peut-être au-delà, en fait.
Mais au-delà, oui, si tu parles de la place des femmes dans les médias, c'est sûr que des patronnes de chaînes, il n'y en a pas 50 000, c'est ça. Même s'il y en a, mais on n'est pas à parité,
ou
ça,
de médias,
c'est sûr.
Même ou de médias, simplement,
carrément.
De,
ouais. Et je sais que moi, j'ai la chance d'être bien accueillie, notamment dans Territoire TV, parce que même si des fois j'entends des trucs, genre, j'ai déjà entendu, mais ça ne m'est pas adressé, mais on me dit « Ah, la petite, là !» La petite, ouais, c'est moi la petite. Et en même temps, je ne trouve pas ça décrédibilisant, c'est parce que j'ai ce côté aussi, c'est ma personnalité. Ouais. Je suis quand même pas très, je ne vais pas dire... C'est pas le bon mot, charismatique, c'est pas ça. J'en vois pas un truc où tu te dis...
Mais tu fais peut-être plus accessible que la fonction sur le papier, si
je
tu veux aller par là.
Je suis pas calibrée chef d'entreprise, tu
Mais
vois.
Mais c'est ça que j'adore aussi.
Mais tant mieux, parce que je ne sais pas faire autre chose.
Ouais.
Mais j'ai pas... Si tu t'attends à une patronne de chaîne, tu vas plutôt peut-être t'attendre à, je sais pas, quelqu'un en tailleur ou j'en sais rien, avec... avec de la bouteille, ou ça veut pas dire que j'en ai pas, mais parce qu'on est tous avec nos biais cognitifs.
Ça,
déjà, on va te présenter au responsable. Tiens, je vais dire ça. On va être avec responsable de la prod audiovisuelle d'un groupe. Tu t'attends pas forcément à ce que ce soit une meuf, et tu t'attends pas à ce que ce soit une fille de 40 ans qui a, je ne fais pas mon âge, vous ne le voyez pas en podcast, mais qui a l'air plutôt jeune et qui a pas trop, qui s'assied n'importe comment sur une chaise, ou qui a pas, enfin en tout cas qui n'envoie pas un message de domination,
oui, je comprends,
de fonction importante, de, tu vois, de, je sais pas trop faire ça, et je pense que mes collègues seraient capables de vous dire oui, quand on me pose encore aujourd'hui, quand on me dit où est tel truc, je dis toujours, il va falloir que j'arrête de dire dans ton cul, mais c'est pas des relations managériales normales,
ouais,
tu vois ce que je veux dire. C'est pas que ça passe forcément par la vulgarité, c'est juste que je ne suis pas dans une espèce de stéréotype qu'on pourrait attendre d'un patron, donc d'une patronne. Mais je trouve que ça me sert plutôt, parce que généralement, ça passe bien. Mm-hmm. Parce que, même si j'ai un côté énervant, ça j'en suis tout à fait consciente, c'est vrai qu'on me dit, oh là là, toujours avec tes petites blagues à la con. Parfois, oui, je suis capable de sérieux aussi, mais... C'est comme n'importe qui que tu vois tous les jours à l'antenne, et c'est mon cas. Et à un moment, tu te dis, oh, elle commence à me saouler celle-là. Je vais peut-être regarder autre chose. C'est pas ça, mais on a un potentiel d'énervement des gens. Et ils nous adorent.
Quoi qu'il en soit, peu importe. Ouais,
mais oui,
ça, c'est sûr.
Mais ils nous adorent. Et puis après, jusqu'au jour, on les énerve pour les mêmes questions. Enfin, pour les mêmes
raisons qu'ils
nous ont adorées. C'est juste, on devient tous un peu la caricature de nous-mêmes à un moment. Et je pense que ça, j'en suis pas très loin. Mais voilà, et ça me dérange pas, parce que aussi, j'aime bien avoir l'impression d'être toujours un peu en embuscade. C'est-à-dire que plus tu vas m'appeler la petite, là, plus tu ne me verras pas venir. Et effectivement, moi, ça, j'ai quand même une qualité qui est celle de l'esprit de synthèse. Et je parle beaucoup, mais j'écoute aussi beaucoup. Ouais. Et généralement, dans des comités importants, dans des endroits comme ça importants, je ne parle pas tout de suite. Mm-hmm. J'écoute. Et une fois que j'ai compris, là, tu vas m'entendre parler et tu vas avoir du mal à... Voilà. On va se taire, celle-là, maintenant. Mais ça y est, j'aurai un avis, je me le serai formé. Et j'apprends tous les jours. Parfois, je suis nulle. Parfois, je dis un truc en disant « Mais t'es complètement passée à côté de ta réunion, ma pauvre, là. » Mais je sais que j'apprends toujours, ouais. Mais je m'en fous. C'est pas grave. Je le dis, en plus. Ouais.
Oui, bien sûr. Bah, puis, bon, c'est pas dramatique en soi.
Et moi, tu me vois venir, à la rigueur, plus je suis contente, parce que tu seras d'autant plus surpris de la qualité de ce que je vais pouvoir te sortir derrière. Tu vois, si tu me sous-estimes un petit peu, ça veut dire que j'aurai la chance de pouvoir te surprendre dans
bien
le
sûr,
bon sens.
Aussi, ouais.
Parce que je connais quand même un paquet de gens et de mecs, puisque ta question était sur les femmes, ouais. Qui se la jouent. T'as l'impression que les gars sont super importants. Et quand tu creuses un peu, tu te dis, il me reste beaucoup d'air quand même celui-là. Il n'y a pas trop de fond dans ce qu'il est en train de me ouais. dire. Et je trouve que c'est plus agréable. En tout cas, moi, je préfère me faire bien surprendre par quelqu'un dans le sens, dis donc,
ouais, c'est vrai.
Pas mal, plutôt que
voilà, l'inverse.
Que l'inverse,
que le
exactement.
Soufflet retombe. Ouais. Bah, justement, dans cette même veine, en préparant l'épisode, je suis allée voir un peu sur le site du CSA, et notamment une étude qui avait été faite.
Ah, tu veux dire l'ARCOM ?
L'ARCOM, oui, qui m'a interpellée. Il y a plein d'infos, plein de données que j'aurais pu ressortir, mais je voulais te faire réagir par rapport à ça. Et justement, on parlait des femmes à l'antenne, là, au-delà de la direction de groupe média, les femmes à l'antenne. Ça évolue entre 2016-2021, on est passé de 38 à 43%. Mais c'est quand même une évolution qui est très lente. Et à l'inverse, quand même, malgré cette évolution, le temps de parole stagne, 36%. Et on voit, pour finir, parce que je vais arrêter avec les chiffres, mais on voit que les femmes, elles sont beaucoup moins présentes aux heures de forte écoute. Donc, c'est-à-dire qu'on leur confie moins les émissions où l'écoute est la plus grande.
On leur met
les
émissions,
personne
ne regarde,
c'est ça. Est-ce que tu peux réagir à ça, toi, qui es dans les médias depuis longtemps ?
Ouais, alors là, ça c'est certain que le chemin est long, mais la femme appelle la femme. Plus t'en vois, plus t'en mets, plus, moins tu te poses une question. Moi, je me rends compte aujourd'hui que le problème que j'ai dans ma chaîne, à ma structure, c'est que je commence à me dire « Oh là là, peut-être falloir que j'engage un peu de mecs », parce que finalement, ouais. J'ai l'impression que à tous les... Alors non, je temporise, le service technique est toujours très masculin, mais notamment dans les journalistes, il y a de plus en plus de femmes et, oui. Et même dans mon état-major, on est trois meufs pour notre rédacteur en chef, il commence à être un peu tout seul, heureusement il y a le responsable du service technique, mais oui, une femme, je pense, se pose moins la question de qui elle va faire monter en fonction de son sexe ou quoi, enfin en tout cas, moi je sais que l'état-major est très... Enfin, l'état-major, ça fait encore un peu grave, c'est pas ça, mais on va dire que les patrons de service, ou en tout cas les gens dont je m'entoure, sont très mixtes, et même je suis en train de me dire, attention à pas mettre trop de filles, parce que je pense
oui,
que
mais c'est dans, ce sens-là
dans
aussi,
les
hein.
deux sens, ça, c'est un univers trop féminin, c'est pas bien, non. Un univers trop masculin, c'est pas bien, on se rend pas compte à quel point on se biaise l'esprit quand on est dans un univers uniforme, en fait. Mmh. On se rend plus compte qu'on est dans une connerie de biais cognitifs et plus tu as de diversité, et je peux te faire la même réflexion sur le handicap, la couleur de ouais, peau des gens et tout ça. On est, moi, dans ma chaîne, on est très filles. On n'est pas du tout assez dans la diversité, mais clairement pas. Mais je n'arrive pas à recruter en diversité. Ouais. C'est super chaud. On a essayé de recruter même RQTH, la handicap, l'année dernière. C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, les chemins d'accès, si tu veux, sont encore pas à l'équilibre. C'est-à-dire ouais, que pour recruter des quotas de femmes, de handicapés, de gens de la diversité, je sais pas, raciale, c'est pas le bon mot, je sais plus, mais enfin bref,
culturel,
ouais, ce que tu veux. En tout cas, bah, si tu veux mettre des noirs et des arabes à l'antenne, en tout cas, à plus forte raison des meufs, noirs et arabes, bah, il faut que tu en aies dans tes candidats. Et ouais. C'est encore, on a un déficit de candidatures, bah, ça veut dire qu'elles sont
loin,
sous-représentées
ouais.
dans les écoles,
c'est ça
veut dire qu'elles sont sous-représentées dans les filières.
Le problème est un peu
vois,
plus profond.
Ça va
ouais,
plus loin que ça.
Vouloir.
Donc même si tu favorises à l'embauche, si entre deux CV de compétences égales, tu vas dire je vais plutôt prendre cette femme ou cet arabe ou cette personne handicapée, eh ben, ça veut pas dire que tu auras autant de candidats. Enfin, tu vois,
ouais,
auras de toute façon une surreprésentation des profils plus classiques, masculins, blancs. Enfin, tu vois, dans les médias, c'est un peu comme ça.
Ouais, ouais.
Donc, c'est difficile, mais les chiffres que tu m'as donnés, ils m'alarment sur le côté, genre, ça progresse. Ok, ça progresse franchement, mais ça progresse. Mmh. C'est plutôt, moi, je suis assez positive. Mmh. Par contre, que le temps de parole stagne, ça me désole.
Ça
veut dire qu'effectivement, on donne moins la parole à la femme qui va être en plateau qu'à l'homme qui sera en plateau. Et en plus, à des heures d'écoute où personne n'écoute.
Et je me permets de te couper, on le voit aussi parce que par rapport aux experts, on l'a vu pendant la crise du Covid, souvent, les experts en plateau sont des hommes.
Oui.
Alors qu'on a quand même un vivier aussi d'expertes femmes. Je le lisais en préparant l'épisode. Mmh. Et c'est ça aussi qui... Alors, ça évolue, effectivement, donc c'est positif. Mais on reste quand même dans cette idée que, bah, je ne sais pas pourquoi, la femme serait moins crédible ou en situation de crise ou pas de crise, mais en tout cas pour donner son avis d'experte sur des plateaux, sur des sujets très divers et variés.
Alors après, moi, j'ai un vrai problème avec le problème des experts. Enfin, les gens qu'on met en plateau pour donner leur avis sur un truc m'ennuient souvent. C'est vrai que cette culture de l'expert, du chroniqueur, alors nous on en a plein des chroniqueurs ici, hein, mais c'est des chroniqueurs qui sont généralement experts de leur discipline aussi. Alors je te dis pas les experts, mais par exemple la nutritionniste qui vient parler de nutrition, oui. Elle est nutritionniste, bah voilà, bah c'est tout. Mais quand tu commences à prendre des commentateurs, alors c'est pas les experts, c'est plutôt les commentateurs qui me gonflent, et là effectivement il y a énormément de mecs, mais parce que les gens qui commentent mais ne font pas adorent donner leur avis sur des trucs qu'ils ne font pas, et voilà, et nous on se réjouit de leur tendre des micros. C'est un truc que, au-delà du fait que ce soit des hommes, j'avoue que c'est pas un système qui me branche. On a besoin, oui, effectivement, d'une parole d'expertise, t'as raison, mais le commentaire, oh là 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 là,
oui, c'est différent,
c'est d'un ennui abyssal. Mais non, mais c'est toi qui as fait, c'est toi qui as parlé d'expert et c'est moi qui pars sur les commentateurs. Mais oui, alors après on a un problème de, encore une fois, de vivier. Tu dis ils existent, mais à quel moment on les identifie, à quel moment elles lèvent le doigt aussi, les femmes, on le sait tous.
Bah, c'est ça aussi, clairement.
Il y a des études qui te montrent que si tu fais un profil de poste, par exemple, sur une candidature, sur un métier sur lequel tu vas recruter, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit quand on a préparé, mais...
Non, mais je vois où tu vas en venir parce que je me doute.
Tu dis, y a, voilà les tâches, il y a 100% dans... voilà. Et ben, un mec qui a 80% des compétences... non, un mec, c'est quoi? C'est 40% des compétences, il va se dire... Je peux arriver, c'est bon, je peux y arriver et je vais compléter le reste des 60, c'est bon. Hmm. Par contre, une meuf qui a 70% des compétences, elle va dire « Ah merde, il me manque 30, j'y vais pas. »
Oui, mais c'est vrai.
Et donc, c'est cette espèce de truc de complexe de l'imposteur où tu dis « Non, c'est pas fait pour moi et tout, machin. » Et ça, c'est un truc qui est complètement féminin. On n'a qu'à résoudre nos problèmes avec nous-mêmes. Le jour où on lèvera le doigt,
aussi.
Et ben, le jour où on dira « Moi, je suis experte d'un truc, je suis disponible pour venir en parler en plateau. » Peut-être qu'on verra plus de meufs en plateau. Donc, il y a un problème de casting, mais il y a un problème de lever le doigt aussi. À un moment, il faut qu'on se sorte les doigts et qu'on assume d'être bonne et qu'on assume d'être légitime à parler du sujet qui est celui qu'on connaît le mieux.
Oui, tout à fait. Bon, tu as un petit peu répondu à ma question, mais je voulais terminer par une question par rapport à tes fonctions. Justement, est-ce que tu te sens un rôle, toi, par rapport à la place de la femme dans les médias? En étant directrice d'un média, alors certes local, mais directrice d'un média quand même qui a son importance ici sur le territoire, est-ce que tu te sens avoir un rôle à jouer au-delà de la direction déléguée, aussi avec Territoire TV, par rapport à ça?
J'ai un rôle double. Mon rôle, le premier, ça va être la représentativité. Je sais que les rôles modèles, c'est fondamental. Si tu ne vois pas une femme patronne d'un média, tu ne t'imagineras pas femme patronne d'un média. Ou si, il y en a certains qui se disent, il n'y en a jamais eu, je serai la première. Mais plus tu en vois, plus tu trouves ça normal. Et moins tu te poses la question de ta légitimité, comme je te parlais tout à l'heure. Et visibiliser les femmes dans n'importe quel secteur où elles sont sous-représentées, c'est rendre la marche facile à monter, en fait.
Genre,
bah, la feu, ok, c'est cool. Et puis, le deuxième rôle dans lequel je trouve que ça... Enfin, je peux répondre à ta question en disant oui, je trouve que j'ai un rôle à jouer.
Oui, je comprends.
C'est que je ne répondrais pas à ton podcast si je ne trouvais pas que j'avais effectivement un rôle à jouer là-dedans. Si tu me demandes mon avis là-dessus et ça ne me concernait pas, enfin, si tu me disais, tiens, je fais un podcast sur les femmes, justement, et montrer que vous pourriez faire comme elles et tout, bah, je me dis, bah, évidemment, j'ai envie de le faire parce que je suis une espèce de schéma, comment je pourrais dire, je sais pas que je suis une anomalie, mais effectivement j'avais pas fait l'école qu'il fallait, effectivement j'ai pas fait les études qu'il fallait pour faire le métier que je fais aujourd'hui, j'ai pas fait le parcours habituel des gens qui se projettent là-dedans. Je passe mon temps à dire à ma fille de 19 ans, mais regarde, évidemment que t'as pas eu tel truc, mais c'est pas grave, tu crois que moi j'ai pas raté des trucs, bah tiens, j'ai raté des trucs et puis ça marche quand même, et puis en plus mes envies ont changé d'ici là, donc oui, je pense que, encore une fois, je reviens sur l'exemplarité et tout, mais répondre à des questions que tu me poses toi, et je sais qu'il y a des gens qui vont l'écouter en se disant, tiens, je vais essayer de peut-être trouver des idées, des inspirations, me montrer que ça me fait du bien aussi d'entendre des gens qui ont fait des trucs et qui les ont foirés. Et,
bah c'est tout à fait ça, ouais.
Et
ouais,
voilà, ouais. Et ça fonctionne quand même parce que moi, il y a un mot que j'adore, c'est la sérendipité. Je sais pas si tu es familière avec ce mot, mais ça vient d'un roman dont j'ai oublié le nom, où c'est des explorateurs qui voulaient, un peu comme Christophe Colomb, aller aux États-Unis, en Inde, et qu'ils ont terminé en Amérique. La sérendipité, c'est des mecs qui voulaient aller au Sérendip et ils n'ont jamais trouvé ce pays. Bon, bref, c'est tu veux faire un truc, c'est la pénicilline, c'est la tarte tatin. Si tu veux faire un truc, tu foires, mais ça fait un autre truc qui est pas mal, en fait.
Ouais, ouais.
Et ben, c'est les accidents heureux. Et donc, soyez des accidents heureux.
C'est la parfaite transition sur mes trois petites questions de fin d'épisode. Parce que justement, j'allais te demander si tu pouvais nous parler. J'aime pas le mot échec, donc j'utilise plutôt déconvenu, ou en tout cas, quelque chose que tu avais prévu, tu avais fait tes plans, tu avais pris ça comme ça, et ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mais justement, t'en as fait émerger quelque chose de mon œuvre. Alors, tu aurais un petit exemple à nous donner?
Mais le petit exemple...
Parmi l'ensemble de ton œuvre.
Mais je pense que tout a commencé avec les 8 de tour, hein. Encore ouais. Vous. Mais c'est la première fois que je me prenais une porte, en fait. Mm. Jusqu'ici, j'ai traversé quand même beaucoup la vie comme ça, en me disant « Ah oh, tiens, ça c'est cool, et puis on te propose un truc, et puis t'y vas, et puis ça marche, et puis tout d'un coup on te propose un autre truc. » Et la première fois que je me suis mangé une porte, c'était quand j'ai envoyé ce dossier et qu'on m'a dit « Merci, mais non merci, madame.
Bah, » oui.
Et purée, la blessure d'orgueil, mais j'ai été refusée d'un truc, quoi.
Ouais,
c'était la première fois, et j'avais 18 ans, et j'étais vexée, je crois, comme un
poulet. Oui, clairement, on imagine, ça nous est tous arrivé.
Et j'avais un sentiment d'injustice, parce que j'ai même pas pu passer les oraux, quoi.
Mais ouais.
Tu vois, j'ai même pas pu leur dire à quel point ils se plantaient s'ils me prenaient pas. C'était juste sur le dossier. Bon, c'est clair que j'avais pas foutu grand-chose au lycée non plus. Moi, pour le coup, je faisais un peu le minimum syndical. Tu sais, j'étais le parfait exemple du peut mieux faire. Quel dommage, elle peut tellement mieux et tout. Ouais, oui. J'avais autre chose à faire, je voulais faire la teuf. Et donc voilà, merci l'invité. Ouais. Et mon pire échec et mon meilleur échec, puisque du coup, voilà.
Exactement. Quelle est la personne, Émilie, qui t'inspire le plus au quotidien, ou de qui t'as le plus appris, que tu connais, que tu ne connais pas, peu importe?
Une personne âgée qui s'appelle Francine Tardif, c'est ma mère qui va me baffer si elle m'entend parler de personne âgée.
Est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi, ou...
Je le dis souvent, mais ma mère, c'est mon héros. Moi, en fait, je me suis jamais posé la question aussi de ma légitimité, parce que j'ai ma mère qui m'a porté, mais toujours, tout est possible.
C'est important, ça.
Ouais, carrément. Et puis, j'ai un sens de l'humour, mon Dieu, qui m'a été injecté dans les veines à cause de cette personne. C'est elle la coupable si je vous énerve.
Avec mes blagues. Hein.
C'est ça, mes blagues pourries, la bienveillance qu'elle peut avoir, le fait qu'elle ne s'énerve jamais. Alors ça, par contre, elle ne me l'a pas forcément transmis.
C'est vrai.
Hein.
C'est vrai. Voilà. J'allais dire, ça, c'est une force, parce que moi, la première, j'aimerais bien qu'on m'apprenne.
Je suis bien trop... Parlez-en à mon mari, qui parle souvent de la façon dont je le regarde. Mais non, moi, je suis beaucoup plus explosive qu'elle, mais voilà, on est qui on est.
Et puis, ouais,
mais si je pouvais avoir un quart de poil de sa gentillesse, de sa bienveillance, de son humour, mais de... Enfin, voilà.
Je prends cette réponse.
Francine, je t'aime.
On aimerait bien la rencontrer, parce qu'elle a l'air très chouette, ta maman.
Purée, méfie-toi. Parce que...
Elle est bavarde aussi.
On ne sait pas. Voilà. Comment ça, tu veux dire que je suis bavarde?
Non, tu l'as dit tout à l'heure. Non, c'est pas moi qui le dis.
Attention à ce que tu demandes, tu pourrais l'obtenir. Tu ne l'oublieras jamais.
Eh bien, écoute, j'aimerais, pour clore l'épisode, est-ce que tu as une citation, un mantra à nous partager, Émilie?
Oui. C'est, et je le répète quand on me pose cette question, mais c'est « Il est poli d'être gay ».
Ça, j'aime bien.
Ouais. C'est... À chaque fois, je fais cette blague aussi. Merci, Francine. Je sais plus si c'est Voltaire ou Gonzague Saint-Brice. Non, c'est Voltaire. Il me semble que c'est vraiment Voltaire. Je suis totalement partisane de ça. Ça se ressent d'ailleurs dans ma carrière aussi. Hein. C'est pas que quand ça va pas, il faut pas le dire. C'est pas ça. Je trouve qu'on a tous assez d'empathie. On devrait en avoir, en tout cas, pour comprendre que parfois, la vie, elle est dure. Et puis, si t'as quelqu'un qui arrive avec la gueule de travers au bureau, même si t'es pas obligé de partager tes problèmes au bureau, mais si tu sens que les gens que t'aimes, tes collègues ou ta famille ou n'importe qui, ça va pas, évidemment qu'il n'est pas question qu'ils aient un masque avec toi et que tu leur dis c'est pas poli de pas être content. Mais par contre, porter une espèce de gaieté, de sourire, d'accueil finalement des autres, et je sais pas, de le répandre un peu. Tu vois, l'autre jour, je me baladais dans la rue et je sifflais, c'était Yellow Submarine. Tu vois, et cette chanson, elle est marrante, tu vois. Et j'ai commencé à la siffler et je suis passée à côté à vélo sur le pont de fil d'un mec qui m'a croisée, et quand il est reparti, en fait, je l'ai entendu siffler et je me suis dit, mais c'est ça, en fait.
Ouais.
Il va partir, il va croiser quelqu'un d'autre qui va être en train de siffler ça, il y a quelqu'un d'autre qui va siffler ça. À la fin, ce sera une ville entière de gens qui sifflent Yellow Submarine. Et peut-être qu'il avait eu une journée de merde, peut-être que sa femme elle lui a cassé les pieds, peut-être qu'il avait, son chien avait bouffé ses pompes ce matin, mais il est reparti en sifflant. Ouais. Et je me dis, ça te change ta journée parfois. Et peut-être juste quelqu'un, voilà, qui est juste un peu sympa avec toi, on perd trop de temps à se vénérer.
C'est vrai. Non, mais ça change tout. Un sourire ou ce que tu viens d'évoquer. Ouais, ça peut tout changer. Ok. Merci beaucoup, Émilie.
Merci beaucoup, Émilie.
Pour cet échange, aussi. Pour ton temps, ta bienveillance, ton partage. Et puis, je te dis à très bientôt. J'aimerais, avant de clôturer l'épisode, que tu nous dises peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver.
Ah oui, bah vous pouvez me retrouver sur TV Tour Val-de-Loire tous les jours à 18h30 pour Qui veut gagner des rayons. Mais oui. Venez jouer, on vous attend. Et puis après, moi, j'ai tous les réseaux, tout ce que tu veux. De toute façon, les gens me trouvent. Hein. C'est ça, s'il y a besoin. Mais moi, j'ai mon fils qui voudrait faire un stage. J'ai cela. Je réponds pas très
toujours.
Vite. Si, je réponds toujours. Parfois, c'est 2 semaines après.
Bon, mais il y a toujours une réponse quand même. Ça, c'est bien ça. Déjà.
Ouais.
Merci beaucoup, Émilie. À bientôt.
Merci à toi.
Et voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Sachez que ces avis sont très importants pour moi et pour le podcast. Et puis pour suivre comme elle, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook @comeelle.lepodcast. Merci de votre soutien et puis je vous dis à dans 15 jours.